Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Pavel Blažek a été nommé nouveau ministre de la Justice. La police a arrêté deux représentants de l'Office du Conseil régional du Skeena de la BEM, responsable de la gestion des fonds européens. Au tournoi de Wimbledon, l'américaine Serena Williams a éliminé la tchèque Petra Kvitova, tenante du titre en 2-7. Le président de la République, Václav Klaus, a nommé le vice-président du Parti civique démocrate ODS, Pavel Blažek, nouveau ministre de la Justice. Pavel Blažek remplace Jiří Pospíšil, démis de ses fonctions mercredi dernier par le premier ministre Petr Nečas. Le nouveau ministre est censé poursuivre la réforme de la justice tchèque et réduire le budget de ce secteur. Il devrait également nommer le plus tôt possible le nouveau président du ministère public supérieur de Prague. Pavel Blažek a déjà laissé entendre pour le journal Mladá Frontadnes qui pourrait accepter la candidature à ce poste de Lenka Bradáčová. Une trentaine d'enfants japonais de la ville de Nami, située à proximité de la centrale de Fukushima, passeront les deux premières semaines d'août en République tchèque dans un centre de réhabilitation près de Prague. Cette aide humanitaire est mise en place par le ministère tchèque de l'Intérieur et devrait être approuvée mercredi par le gouvernement. Le projet est destiné aux enfants âgés de 12 à 14 ans touchés par le violent séisme de mars 2011. La police a écroué dans la matinée de ce mardi deux représentants de l'Office du Conseil régional d'Ustina de la BEM, institution responsable de la gestion des fonds européens. Selon l'agence de presse CTK, il s'agit d'un chef de bureau et d'un chef de section. Deux autres personnes ont également été arrêtées. Leur arrestation a été confirmée par l'attaché de presse de l'unité de lutte contre le crime organisé, Pavel Hantak. Selon ses paroles, les fonctionnaires seront probablement inculpés d'abus de pouvoir. Le chanteur du groupe de métal américain Lamb of God, Randy Blythe, a été arrêté mercredi dernier à Prague dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un fan du groupe il y a 2 ans. Lors d'un concert du groupe à Prague, le chanteur aurait poussé de scène un jeune homme de 19 ans décédé 15 jours plus tard d'une hémorragie cérébrale. Inculpé par la justice tchèque d'homicide involontaire, le chanteur a payé ce mardi une caution de 4 millions de couronnes, environ 160 000 euros. Selon le juge du tribunal du 8e arrondissement de Prague. Il pourrait être libéré la semaine prochaine. Ce mardi s'ouvre dans la ville de Telč, dans le sud-est du pays, la 18e édition de l'Académie de musique franco-tchèque. Celle-ci propose pendant 10 jours des cours magistraux d'interprétation et de musique de chambre, plus précisément des cours de violon, d'alto, de violoncelle, de flûte et de hautbois. Ils sont destinés aux étudiants des conservatoires et des écoles supérieures de musique originaires de France, de République tchèque et d'autres pays européens encore. La 18e édition de l'Académie s'achèvera le 13 juillet prochain par un concert des participants dans le couvent des Prémontrés à Novářice dans la région de Jihlava. La tchèque Petra Kvitová, tenante du titre, a été éliminée en quart de finale du tournoi de Wimbledon par l'américaine Serena Williams en 2-7, 3-6 et 5-7. Serena Williams, tête de série numéro 6, aura pour prochain adversaire la Biélorusse Victoria Azarenka, tête de série numéro 2 et ancienne numéro 1 mondiale, ou l'autrichienne Tamira Paschek. Côté météo, c'est un temps nuageux qui continuera à régner sur l'ensemble du territoire mercredi, jour de la fête des Procopes. Des averses et des orages seront au rendez-vous, notamment dans le nord et dans l'est du pays. Les températures seront situées entre 24 et 28 degrés localement et pourront grimper jusqu'à 32 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková à la suite du programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Magdalena Hrozinková pour ce bulletin d'information. Au sommaire de l'édition d'aujourd'hui, nous reviendrons tout d'abord sur la mise en circulation d'une carte de crédit assez spéciale puisque destinée uniquement aux bénéficiaires de prestations sociales. Nous vous en dirons un peu plus sur ce nouveau système qui suscite de nombreuses critiques. Comme hier, nous rejoindrons ensuite Anna Kubista, notre correspondante au Festival international du film de Carlo Vivari. Elle a pu s'entretenir avec les réalisateurs du film Noor, un film dont le personnage principal est un transgenre pakistanais. Enfin, dans la deuxième partie de ce programme, l'historien Igor Tchoukarin nous expliquera au micro d'Anne-Claire Veluire les raisons pour lesquelles la Croatie est une destination si prisée auprès des Tchèques. Très bonne écoute à toutes et à tous. Depuis le début du mois de juillet, 5000 personnes testent le nouveau système de carte bancaire destiné aux bénéficiaires d'allocations sociales. Baptisée S-Carta pour Social Ni Carta, celle-ci est censée limiter les fraudes et optimiser le versement des aides de l'État. L'introduction de cette carte s'inscrit dans la réforme des prestations sociales entrée en vigueur au début de l'année et portée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, Jaromír Drábek, du parti Tomnula Devjet. Pour autant, les critiques de l'opposition, des syndicats et des associations d'handicapés fusent, pointant les aspects moraux discutables et les difficultés techniques pernicieuses d'un tel système. Désormais, le Bureau du Travail versera directement toutes les prestations sociales, qu'il s'agisse des allocations familiales, des aides au logement, des allocations aux adultes handicapés ou encore des indemnités liées au chômage, sur ces cartes de crédit, les S-Carty. Celles-ci fonctionnent comme n'importe quelle carte bancaire. On ne peut cependant y verser d'argent depuis un compte traditionnel. Le système concerne pour l'instant seulement 5000 personnes, mais devrait être étendu à tous les bénéficiaires d'aide dès janvier 2013. Ce serait alors près de 80 milliards de couronnes, plus de 3 milliards d'euros, qui transiteront par ces cartes bancaires chaque année. Pour le ministre Jaromír Drábek, la S-Carta permet de simplifier le système de versement des aides sociales et constitue un avantage pour tout le monde.
Pour les clients, il s'agit d'une augmentation de l'offre et d'une amélioration du confort. Cela ne coûtera pas une couronne ni à l'État ni aux clients. C'est donc une réponse indiscutable et suffisante.
L'État tchèque a en effet signé un contrat d'exploitation de ce système avec la banque Česká spořitelna. Celle-ci en prend en charge tous les coûts. Il faut dire qu'avec un marché estimé à près d'1 million de clients à partir du début de l'année prochaine, la banque, qui empochera un petit pourcentage sur les transactions effectuées, sera de toute évidence gagnante. Aussi, l'opposition considère que la S-Carta n'avantage en réalité que l'établissement bancaire. Selon le ministère du Travail et des Affaires sociales, ce système contribue également à lutter contre certains abus. Pourtant, la carte n'empêche nullement son propriétaire de dépenser son argent en alcool ou dans des machines à sous, comme cela était prévu au début du projet. Aussi, pour Václav Krasa, le président du Conseil des personnes handicapées, l'intérêt de cette carte est nul.
Je pense qu'il s'agit d'un non-sens complet. Tout le monde dispose aujourd'hui de son propre compte bancaire ou bien utilise la poste afin de recevoir de l'argent. Je ne vois donc pas du tout l'intérêt de cette carte. C'est simplement une nouvelle privatisation de l'espace public. Il faudrait que la banque Česká spořitelna, qui a obtenu cette commande extrêmement lucrative, se donne au moins la peine d'adapter ses agences afin qu'elles soient adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Selon lui, environ 100 000 bénéficiaires d'allocations sociales, affaiblis par la vieillesse ou par un handicap, rencontreraient d'importantes difficultés avec cette S-Carta. Ces personnes sont en effet dans l'incapacité de se rendre à un distributeur automatique ou tout simplement de payer avec leur carte lors de leurs achats. Pour Jan Hutarj, l'avocat du Conseil des personnes handicapées, le nouveau système de S-Carta introduirait donc une réelle discrimination. Ce dernier a donc saisi la justice et des mesures prévisionnelles pourraient être décidées avant la fin de la semaine. Le duo de réalisateurs Guillaume Giovannetti et Kagla Zensirsi ont présenté au public de Carlo Vivari leur film Nour, récit d'un homme, un Kushkra, qui va vouloir sortir de sa communauté et partir en quête de son identité au Pakistan. Nour est le premier long métrage des deux réalisateurs. Il a été auparavant présenté à Cannes et se retrouve devant un public de cinéphiles pour la deuxième fois à Carlo Vivari. Ils ont partagé leurs impressions pour Radio Prague au micro d'Anna Kubishta.
C'est très chouette, il faisait 45 degrés dans la salle et la plupart des gens sont restés à la fin pour la discussion, donc c'était avec une salle pleine et puis pas mal de questions. On a eu, je crois, peut-être une heure, près d'une heure et demie de discussion après le film, donc c'était très chouette. En plus, bon, c'est vrai que c'est que la deuxième fois que nous on monte le film, la première fois c'était dans le cadre de Cannes, la deuxième fois ici en République tchèque, donc on ne connaît pas le public. On a eu déjà la chance d'être dans d'autres festivals majeurs, mais c'est la première fois qu'on est à Carlo Vivari, donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Donc ouais, des très bons retours du public. Après, on espère aussi que le film pourrait sortir éventuellement ici. Donc là, on a le vendeur international du film Wide, qui a une représentante ici, qui essaie de faire son maximum pour que le film puisse éventuellement sortir en salle. On espère, parce que là, il y a des spectateurs, mais ça suffit jamais. On espère qu'il va être montré pas mal. Donc pour l'instant, de très bons retours. Noor lui-même est ici également avec notre producteur exécutif pakistanais, Monsieur Mehrban Karim, et un autre acteur du film. Eux sont ravis. Ils ont vu le film en DCP, en énorme, pour la deuxième fois pour Noor et pour la première fois pour les deux autres. Donc c'est très chouette.
Non seulement le lieu est beau, et en plus les spectateurs, ils ont l'air vraiment motivés. Donc vraiment après la projection, en plus on l'a fini à 11h. Normalement je pensais que voilà, les gens allaient partir et que non, en fait la salle était pleine, les gens ils sont restés, on a fait une heure de questions et réponses. Moi je suis ravie pour ma part et en fait aussi les Pakistanais de leur côté. Voilà.
Comment est née en fait l'idée du film tout simplement?
Comment est née l'idée du film? Donc nous on est allé au Pakistan pour la première fois il y a 10 ans, en 2002. Un peu en passant par hasard parce qu'on était dans la région et on voulait traverser le pays le plus vite possible, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était très intéressant et que les gens étaient super et que c'était surtout très cinématographique. Donc même cette première fois on y est resté 3 mois, et puis ensuite on est régulièrement retourné au Pakistan dans les années qui suivaient, et puis ça nous a semblé assez naturel au bout d'un moment de développer un projet de film là-bas. En parallèle on faisait des courts-métrages et des documentaires, et puis on s'est dit pourquoi pas faire un long-métrage à force d'avancer.
Donc, sacré défi aussi de faire un premier long-métrage, non, après
Sacré défi, ouais. Alors a posteriori, enfin tout le monde nous a dit que ce serait impossible, c'était presque impossible. Mais ce qui est important dans la phrase, c'est le presque. Voilà, donc c'était un peu compliqué bien sûr, mais on a commencé à écrire quelque chose avec des éléments qu'on est allé puiser à droite à gauche dans le pays, et puis ça c'est, ensuite on a été soutenu par deux sociétés en France. Grâce à ça, on a pu continuer à avancer, et à la fin, on est tombé sur Noor, le personnage principal, dans la rue, et on a écrit l'histoire autour de lui.
Alors justement, qui est Noor pour les personnes qui n'auraient pas vu le film, pour un petit peu leur dire d'aller le voir?
Alors Noor, c'est un ancien Khusra, et Khusra c'est disons un terme que nous on veut pas vraiment traduire parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. Les Khusra c'est une communauté, et on peut aussi le considérer comme une sorte de caste. Comme en Inde, et ça peut être des transgenres, ça peut être des transsexuels, et ça peut être que des gens qui se mettent en vêtements de femmes et considèrent ça comme un boulot. Donc c'est très, c'est extrêmement divers, et donc ils ont un rôle très particulier dans la société. C'est que quand il y a des mariages ou bien quand il y a des nouveau-nés dans une famille, les familles, quel que soit leur niveau d'éducation et leur classe sociale, vont inviter des Khusra pour la cérémonie ou pour les célébrations, pour qu'ils puissent donner des bonnes vœux et leurs bonnes prières pour le nouveau-né et le mariage. Et parfois, quand ils viennent à la porte pour juste mendier, il n'y a personne qui peut les refuser parce qu'ils ont aussi peur. Parce qu'avec les bonnes prières, il peut aussi en faire des mauvaises. Et tout le monde a peur des Khusra, donc tu ne renvoies jamais un Khusra les mains vides.
C'est comme si c'était un peu divin ?
Presque. En fait, tout le sous-continent pense que ces gens-là ont des pouvoirs spirituels. Comme ils sont démunis, Dieu les écoute. Et que voilà.
C'était Guillaume Giovanetti et Kagla Zensirsi, réalisateurs du film Noor. Il répondait aux questions d'Anna Kubishta. Vous entendrez l'intégralité de cet entretien dans une prochaine édition de Culture sans frontières. On change d'horizon désormais. Chaque année, des millions de touristes tchèques se rendent en Croatie ou sur les bords de l'Adriatique, dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Une tradition qui remonte à la fin du 19e siècle. Igor Tchoukarin, jeune historien spécialiste du sujet, est l'invité d'Anne-Claire Veluire dans la rubrique Panorama que nous vous proposons en rediffusion.
Panorama.
Panorama.
Chaque année, des millions de touristes tchèques se rendent en Croatie ou sur les bords de l'Adriatique dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Une tradition qui remonte à la fin du 19e siècle. Pour en parler, Igor Tchoukarin, jeune historien, interroge au micro d'Anne-Claire Veluire.
Igor Tchoukarin, tu es canadien, québécois. Tu viens de soutenir une thèse à Paris à l'EHESS. La thèse est intitulée « Politique et représentation d'une mise en tourisme, le tourisme international en Yougoslavie de 1945 à la fin des années 60 ». Alors je vais te laisser introduire un petit peu le sujet de cette thèse.
Dans ma thèse d'histoire, j'ai tenté d'étudier le tourisme et le tourisme international en Yougoslavie socialiste, comme tu l'as mentionné, mais en fait, voir quel lien que le tourisme cultivait avec le politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait politique au sein du tourisme, à savoir comment les autorités yougoslaves percevaient le tourisme, quelle utilité le tourisme international avait pour les autorités yougoslaves. Et ça a un peu constitué le premier volet, disons, l'administration du tourisme en tant que tel, et un deuxième volet de ma thèse qui portait cette fois-ci sur les représentations de la Yougoslavie, les représentations que les Yougoslaves projetaient d'eux-mêmes en France et en Tchécoslovaquie. Ça, en fait, c'est les deux cas, les deux études de cas sur lesquelles j'ai travaillé. Et aussi, d'un autre côté, comment que les Français et les Tchécoslovaques percevaient la Yougoslavie et de quelle manière eux ont parlé de la Yougoslavie dans leur pays.
Alors, on va parler un petit peu des Tchèques. C'est le début des vacances. Beaucoup de Tchèques se rendent chaque année en Croatie ou sur les bords de l'Adriatique dans les pays ex-yougoslaves. C'est une tradition qui remonte à longtemps. Je crois que les Tchèques se rendent au bord de l'Adriatique. Est-ce que tu peux un petit peu nous retracer cette histoire ?
En fait, dès la fin du 19e siècle, les Tchèques au sein de l'Empire austro-hongrois vont sur le bord de l'Adriatique. Et il y a vraiment un saut de la permanence qui caractérise l'établissement des Tchèques sur l'Adriatique. Et en ce sens, mon travail révèle l'existence d'une culture du voyage tchèque sur l'Adriatique. Pour vous donner quelques petits exemples, je dirais que avant 1914, déjà, des Tchèques achètent des hôtels ou établissent des hôtels sur la côte, et ces initiatives se poursuivent après 1918, continuent, et même aussi après 1945, le syndicat tchécoslovaque, ROA, établit un centre récréatif au Monténégro. En fait, de l'Istrie au nord, et on peut descendre sur toute la Dalmatie et jusqu'au Monténégro, il y a une vingtaine de centres récréatifs qui ont été établis par les Tchèques. C'est quand même quelque chose de particulier. Et puis, il y a toute une tradition qui s'installe rapidement. Il y a une station touristique environ une dizaine de kilomètres au sud de Dubrovnik qui s'appelle Kupari, qui ouvre ses portes en 1923. Et cette station accueille des milliers de touristes à chaque année. Et il y a même une crème de bronzage qui était fabriquée dans la ville de Kolín, qui s'appelait Kupari, du nom de la station. Il y a une rencontre interparlementaire yougo-tchécoslovaque en 1938 qui a lieu dans cette station. Pas moins de trois films sont tournés en 1932 et 1938 sur les lieux mêmes de cette station. Donc il y a tout un héritage qui est assez important au niveau de l'entre-deux-guerres. Un héritage qui se poursuit après 45.
Après 45, justement, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie se retrouvent dans le bloc soviétique avec des destins qui seront différents, on va dire. Mais pour en rester sur le cas tchécoslovaque, les possibilités de voyager vont être plus restreintes. Comment ça se passait concrètement pour les Tchèques quand ils voulaient partir en Yougoslavie ?
Avant tout, la Yougoslavie ne faisait pas partie du bloc soviétique.
Tout petit peu au début.
De 1945 à 1948 jusqu'en juin 1948. En fait, dans le cas tchécoslovaque, de 1945 à 1948, disons de 1946, parce qu'en 1945, il n'y avait à peu près pas de tourisme qui était possible, mais de 1946 à 1948, les touristes tchécoslovaques en Yougoslavie qui sont très présents, ils représentent environ 30% à 40% des touristes à chaque année. Et ça, c'est en ligne directe avec toutes les initiatives de l'entre-deux-guerres. Par contre, il y a un événement un peu emblématique des liens que le tourisme et le politique peuvent cultiver, et c'est la rupture du 2 août 1948, lorsque le ministère de l'Intérieur tchécoslovaque interdit tout voyage touristique en direction de la Yougoslavie. Et c'est un point de rupture qui continue jusqu'à l'été 56. Et c'est suite à la déclaration de Belgrade et au renouvellement des relations yougo-soviétiques en 55 que le tourisme tchécoslovaque peut finalement reprendre en 56. Si on pense à la Deuxième Guerre mondiale et à cette période, ce sont 14 saisons estivales, c'est-à-dire de 39 à 45 et de 48 à 55, où aucun touriste tchécoslovaque ne pouvait se rendre en Yougoslavie. Et il y avait toutes sortes de formalités administratives qui aujourd'hui nous apparaissent tout à fait ahurissantes. Les touristes tchécoslovaques devaient, en ce qui concerne les hommes, devaient avoir l'autorisation des autorités militaires pour sortir du pays, obtenir un visa de sortie, et ça, sans mentionner aussi le passeport, parce que le passeport n'était pas automatique. Chaque citoyen devait faire la demande, et c'était parfois assez difficile. Ils devaient de plus remettre leur passeport une fois retourné au pays. Et ils devaient obtenir des devises. C'était difficile puisque le montant exact qu'ils pouvaient échanger, c'est-à-dire de couronnes pour obtenir des dinars, était limité par des lois. Donc souvent, la Yougoslavie a été un pays, disons, plutôt onéreux pour les Tchécoslovaques. En fait, il y avait un autre moyen aussi d'y aller, c'était par les voyages collectifs qui étaient organisés par différentes entreprises et par le syndicat Haroa que j'ai mentionné. Donc, c'était parfois un moyen un peu plus facile pour se rendre, mais les places étaient limitées. La Yougoslavie était une des sections convoitées. C'était un peu une vitrine occidentale pour les Tchèques. Et en fait, il y a une caractéristique pérenne de la Yougoslavie durant toute l'époque de la guerre froide. Et c'était une destination qui était, pour les Tchèques, les Tchécoslovaques, accessible, relativement accessible. Faut toujours nuancer le terme. Mais c'était beaucoup plus facile que d'aller en Europe de l'Ouest, par exemple. Par contre, administrativement, la Yougoslavie était considérée par les autorités tchécoslovaques comme un pays capitaliste.
Tu es en train de dire que la Yougoslavie était relativement accessible, mais est-ce que c'était un vrai tourisme, entre guillemets, de masse, ou est-ce que c'était vraiment une destination qui était réservée, on va dire, à l'élite de la société tchécoslovaque?
Si on regarde en termes de chiffres, La Yougoslavie apparaît comme une destination de tourisme de masse, avec environ 65 000 touristes tchécoslovaques en 1964, jusqu'à 500 000 en 68 et 69, avant que les frontières tchécoslovaques se ferment à l'automne 1969. Donc, en ce sens, oui. Et de plus, le tourisme collectif était toujours prisé par rapport au tourisme individuel. Donc, les entreprises tchécoslovaques faisaient la promotion de ce tourisme de masse.
Igor Tchoukarine était l'invité de notre rubrique Panorama. C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en français. Pierre Ménian vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.